Aidez-moi, madame. Madame, j'ai très mal.
Celle que vous entendez ici est Naomi Mutsenga. Nous sommes le 29 décembre 2017 et Naomi ne va clairement pas bien. Elle a très mal au ventre. Elle appelle d'abord la police qui l'oriente vers les pompiers, puis vers les SAMU. Et c'est là qu'elle appelle.
Oui, allô? Allô?
Aidez-moi, madame.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Aidez-moi.
Qu'est-ce qui se passe?
Aidez-moi.
Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein?
Madame, j'ai très mal.
Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord.
La conversation dure environ une minute.
Je veux pas.
Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde.
Naomi n'est pas aidée. Quelques heures plus tard, après avoir appelé SES médecin, elle décède à l'hôpital de Strasbourg à la suite d'une défaillance multiviscérale. Les 4 juillet de cet été, l'opératrice du SAMU est reconnue coupable de non-assistance à personne en danger et condamnée à 12 mois de prison avec sursis. On ne sait toujours pas si Naomi aurait survécu avec leur aide. Ce qui est sûr, c'est que les cas de Naomi Mutsenga provoquent des remous en 2017 et 2018 lorsque les enregistrements de la conversation téléphonique sont publiés. Beaucoup des gens sont horrifiés, comme par exemple la médecin généraliste Monique Weber. Elle publie un article dans les quotidiens du médecin. Selon elle, le changement de ton et d'attitude de la standardiste depuis les premiers mots de Naomi n'a qu'une seule origine, les préjugés racistes.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Soigner sans discriminer, un épisode signé Linnea Mundorf.
La discrimination en médecine semble presque contradictoire, parce que, en principe, les médecins sont nos sauveurs en cas de besoin. Mais les médecins sont des êtres humains comme les autres, qui grandissent dans des structures patriarcales, racistes et discriminatoires comme tout le monde. Des histoires comme celle de Naomi ne sont pas des cas isolés. En ligne, les témoignages d'inégalités de traitement sont nombreux.
Elle a dit « Oh, ils sont trop mignons, on dirait des petits singes. »
J'ai des contractions, je vais donner naissance d'une minute à l'autre maintenant. Mais ils ne m'ont pas du tout écouté.
Tiens, soulève sa couverture, tu verras, il a un gros sexe.
Nos paroles ne seront pas forcément prises au sérieux, on ne va pas forcément recevoir les mêmes soins.
Que ce soit les non-blancs ici en France, les aborigènes en Australie ou les autochtones au Canada, il y a des groupes sociaux qui doivent y réfléchir à deux fois avant d'aller chez les médecins. Ils se heurtent souvent à des préjugés, à l'ignorance et à l'inégalité de traitement. L'un des principaux exemples des pensées racistes, c'est les morbus méditerranéus ou syndrome méditerranéen. Ce terme n'est pas un diagnostic, mais un préjugé. Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner le fait que les personnes originaires de la région méditerranéenne sont censées être plus sensibles à la douleur et aux pleurs. Tout comme la croyance selon laquelle la peau des personnes noires est plus épaisse et qu'elles ressentent donc moins la douleur. Cette façon de penser, elle est prouvée par des recherches. Une étude par US Centers for Disease Control and Prevention, publiée en 2019, montre que les femmes des couleurs ont 3 fois plus de risques de mourir pendant la grossesse. De même, le journal Nature relève en 2022, dans un podcast, qu'à l'époque des Covid, les personnes noires mouraient 2 fois plus souvent de Covid que les personnes blanches. Mais comme dans tous les domaines de notre société, les choses ne sont pas aussi simples en ce qui concerne le racisme.
Alors, raciste, c'est un petit peu fort, je pense qu'il faut parler de disparité.
Voici le professeur Antoine Maé, professeur conventionné de l'Université de Strasbourg et chef du service de dermatologie à l'hôpital Pasteur de Colmar. Antoine Maé est également fondateur et directeur du diplôme universitaire médecine de la diversité à Strasbourg. Quand il parle ici des disparités, il fait référence à une inégalité des traitements, une inégalité qui se base sur des préjugés.
Les préjugés, ça veut dire que on raisonne plus, c'est-à-dire on voit la personne, que ce soit sa couleur de peau ou ou son accent, hein, parce que vous voyez, il y a comme un déclic, il y a un signal. Ah, cette personne a un accent, donc je rentre à fond dans tout un tas de, dans une boîte de préjugés que j'ai accumulés depuis un certain temps, et je balance tout. Et alors que la médecine, la santé, il faut réfléchir. Le diagnostic évident qui vous tend les bras, bien sûr, ça existe, mais faut vraiment se méfier. Et là, en ayant des préjugés, on enlève toute méfiance. On est dans l'évidence, et voilà. Et du coup, on passe à côté des diagnostics. Ouais. Les préjugés, ça peut être que quand on n'a pas beaucoup d'expérience d'une population, on va se référer à quelque chose qu'on a peut-être vu une fois dans sa vie. Voyez. Et par exemple, moi, je vois assez souvent des dermatologues, quand ils voient une tache sur la peau chez une personne d'origine africaine, ont tendance à évoquer une lèpre. La lèpre, ça reste une maladie assez rare. Mais évidemment, ça touche exclusivement des personnes non-européennes aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir une tendance pour quelqu'un, vous voyez, qui a un cours de médecine tropicale, par exemple, il voit une tache comme ça, il dit « Ah, ça doit être une lèpre !» et il va partir à fond là-dessus. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un peu le syndrome d'overshadowing, hein, c'est de l'anglais. En fait, on donne une importance exagérée à un contexte, vous voyez, parce qu'ils ont comme ça, le médecin a un manque de connaissances, donc il se rattache à ce qu'il peut et il se plante complètement. Le racisme, il y en a forcément, je veux dire, il y a aucun domaine de la vie qui est totalement exempt de racisme. Je suppose qu'il y a des médecins racistes, il y a des infirmiers racistes, ça doit exister. Mais le problème auquel je m'attaque, c'est plus qu'une insuffisance de connaissances, parce que de plus en plus, finalement, on a affaire à des populations qui, avant, étaient ultra minoritaires. C'est un retard de connaissances, mais qui concerne aussi d'autres catégories de populations minoritaires. Par exemple, les grands obèses, ils sont l'objet de disparités, des fois techniques. Par exemple, quand on veut demander un scanner à quelqu'un qui fait 250 kilos, des fois, on est obligé de l'envoyer dans une école vétérinaire. Il y a des choses comme ça. Pour moi, ce n'est pas du racisme anti-gros, c'est de l'ordre des disparités, parce que c'est une population émergente, en fait. Et c'est un constat un petit peu d'insuffisance de recherche. Parce que la recherche médicale, et ça, c'est vrai pour tout, hein, c'est quand même quelque chose d'extrêmement coûteux. Et ça s'intéresse à des pathologies courantes. Mais en médecine, des fois, on est confronté à une expression qui varie selon l'individu. Vous voyez, la douleur, souvent on vous dit « Ah, de 0 à 10 ». Ça, ce genre d'échelle de la douleur, c'est valable pour quelqu'un qui a une mentalité, on va dire, occidentale. Quelqu'un qui n'a pas ce genre de conception, ça va être difficile qu'il grade sa douleur. Et même, il peut l'exprimer de façon totalement différente. Il y a un exemple que j'aime bien citer, c'est les femmes africaines d'origine subsaharienne qui accouchent en France. On s'est rendu compte qu'il y a une mortalité maternelle qui est plus élevée que pour les Européennes. Et on pense que c'est de la rupture utérine. Donc la rupture utérine, c'est une complication rare, mais qui survient de façon anormalement fréquente chez ces personnes. Le symptôme, en fait, le maître symptôme de cette pathologie, c'est une douleur terrible. Or, les femmes nées en Afrique subsaharienne, on leur apprend toute leur vie à ne pas exprimer leur douleur pendant l'accouchement. Donc on pense qu'elles, culturellement, elles minimisent ce qu'elles ressentent. C'est terrible, hein, de se dire ça. Au point qu'on passe à côté de diagnostics graves. Les cultures ne réprimandent pas, d'une certaine façon, l'expression de la douleur. Il y a des cultures, on accepte, hein, il faut exprimer sa douleur. D'autres, au contraire, c'est très réprimé. Et quand on vient d'une culture où l'expression de la douleur est très réprimée, et quand on voit quelqu'un qui l'exprime, le réflexe, j'ai envie de dire, c'est de dire, bon, c'est du cinéma. Moi, dans ces circonstances, j'en ferais beaucoup moins, vous voyez. Peut-être, en fait, la personne souffre beaucoup. C'est comme ça qu'elle l'exprime. C'est pas parce qu'il peut y avoir une tendance à parler beaucoup que la personne souffre moins. Où ça devient vraiment problématique, ça se traduit par une minimisation des symptômes. Donc je pense que c'est une sorte de choc culturel, quoi.
Allô ?
Aidez-moi, madame.
Oui, qu'est-ce qui se passe ?
Aidez-moi.
Qu'est-ce qui se passe ?
Aidez-moi.
Quand on écoute la bande-son de l'agent du service du SMUR, je ne sais pas, bon, clairement, elle a des propos très, très, très vexants, très désobligeants, et on a du mal à se dire qu'elle parle à tout le monde comme ça, Et c'est vrai que la personne qui s'exprime avec un accent assez prononcé, évidemment, on peut pas mettre sa main au feu. Peut-être cette personne, elle est odieuse avec tout le monde. Mais là, quand même, c'est un petit peu frappant. C'est quand même cette histoire qui a été mise en avant. Donc là, je pense que oui, il y avait une part de racisme. Mais d'un autre côté, la jeune Naomi, elle n'avait pas les codes pour l'exprimer de façon occidentale, je pense. Donc elle a paniqué. Elle n'a pas décrit sa douleur avec la fameuse échelle de 0 à 10, vous voyez. Donc c'est vrai que ce n'était pas convaincant. Ce n'était pas convaincant pour quelqu'un qui faisait aucun effort, quoi.
Les lignes entre l'ignorance et la discrimination sont donc difficiles à tracer. Et un autre élément entre en jeu. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, dans l'exemple d'Antoine Mahé et aussi dans les cas de Naomi Musanga, il y a un point commun. Il s'agit des femmes noires. Aux disparités liées à la couleur de peau s'ajoutent donc des disparités liées au sexe. L'étalon de la plupart des études médicales est un homme blanc de 75 kilos. Notre connaissance du corps féminin, insuffisante. Et là aussi, ignorance, méconnaissance et préjugés s'émêlent. Parlons par exemple d'hystérie. Dans ce terme, il y a le mot hystéria, c'est-à-dire utérus. Selon l'historien de la médecine, le professeur Volker Hess de la Charité de Berlin, l'hystérie a longtemps été un diagnostic et une explication de la perte de contrôle des femmes. Au Moyen-Âge, on pensait par exemple que les seins d'une femme devaient être purifiés une fois par mois par les règles. Si les règles n'arrivaient pas et que l'on n'était pas enceinte, tout changement d'humeur était considéré comme de l'hystérie. Plus précisément, on pensait que le sang non purifié s'est déposé quelque part et qu'il était donc source des malheurs. Le premier à avoir étudié l'hystérie est le neurologue français Jean-Martin Charcot. Il a démontré des méthodes de traitement telles que les vibrateurs pour calmer les femmes. En effet, les désirs sexuels non satisfaits des femmes étaient considérés comme la cause de l'hystérie. Aujourd'hui, on sait mieux. Et on ne parle plus d'hystérie en médecine. Mais ça ne veut pas dire que tout est résolu.
On a découvert assez récemment finalement que les femmes pouvaient faire des infarctus presque aussi souvent que les hommes en fait. Infarctus du myocarde, hein, parce que quand un homme de 50 ans disait qu'il a mal dans la poitrine, tout de suite on pense à un infarctus. Quand c'est une femme, on disait c'est de l'angoisse, vous voyez. Mais ça maintenant, ça se sait. Alors est-ce que c'est de la misogynie ou est-ce que c'est de l'insuffisance? C'est un peu un mélange de tout, hein. Il y a le poids d'une société peut-être patriarcale là-dedans. C'est pas non plus de la mauvaise volonté, vous voyez, parce que faut faire la différence entre les erreurs de bonne foi, mais il y a un défaut de connaissance là-dessus. Et là, alors là, il faut considérer que c'est l'histoire de la science qui n'est pas très très équilibrée.
Et ces déséquilibres concernent aussi le racisme et les disparités envers les people of color. La croyance en une autre perception de la douleur, une peau plus épaissie. Ce sont des vestiges de la colonisation. Regardons cela de plus près. La race est une invention occidentale, mise en place en forme des classifications par les naturalistes. Du coup, la naissance des races, c'est la période des Lumières.
Donc cette période des Lumières, durant laquelle on voit apparaître également des controverses scientifiques entre polygénistes et monogénistes.
C'est l'historienne Delphine Pieretti-Cortis. Elle explique l'histoire esclavagiste de la santé dans la série « Santé autrement » diffusée dans l'émission LSD de France Culture.
Le monogénisme, véhiculé par l'unique message chrétien qui prédominait jusqu'alors, diffusait la croyance selon laquelle il n'existait qu'une seule espèce humaine. Au cours du XVIIIe siècle, apparaissent des théories polygénistes selon lesquelles il existerait plusieurs espèces humaines. Voltaire, par exemple, est partisan de cette thèse polygéniste. On considère que ce que l'on a appelé donc la race noire est plus proche de l'animal dans une perspective qui, à l'époque, place l'animal au plus bas de cette échelle du vivant et l'homme blanc au sommet de l'échelle humaine. L'animalisation des hommes et des femmes d'Afrique a également permis de justifier l'esclavage, puis la colonisation, encore le travail forcé, avec l'idée de robustesse qui était attribuée aux animaux. Ce préjugé de la robustesse, de la résistance ou de l'invulnérabilité des populations africaines, c'est un préjugé qui est très courant et qui va se voir transformé au cours du XIXe siècle en un savoir scientifique. Les médecins, les anthropologues recherchent dans les corps la marque de cette robustesse. Des médecins de la marine qui partent sur le terrain, comme le docteur Tally en 1866, recherche, au-delà de la robustesse, à vérifier s'il y a cette prétendue insensibilité à la douleur. Et il faut savoir qu'il y aura aussi des conséquences très réelles, notamment sur les prises en charge médicales sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui font mention du fait qu'ils ne distribuent pas, ne donnent pas d'anesthésiant à des femmes ou des hommes parce qu'ils savent qu'il y a une résistance très forte à la souffrance, à la douleur. Les préjugés raciaux n'ont pas disparu. En effet, la construction des races humaines s'est déroulée durant plus d'un siècle et demi. On a ensuite diffusé ces connaissances par le biais de l'enseignement, par le biais de la culture, de la presse, de la publicité, des cartes postales. Donc ces stéréotypes ont été véhiculés, enseignés et ont imprégné les mentalités. Donc lorsque dans les années 1950 on invalide la notion de race humaine, tous ces préjugés, tous ces stéréotypes n'ont pas été déconstruits un à un. Et ils sont encore parfois très présents dans un inconscient collectif et chez des personnes qui ne voient pas forcément le problème aujourd'hui. Par exemple, alors je cite souvent cet exemple, mais l'idée du rythme dans la peau, c'est un stéréotype biologisant, essentialisant, qui est encore aujourd'hui très présent. Donc ces préjugés raciaux, il me semble qu'ils doivent être connus, étudiés, compris, si l'on veut qu'ils soient progressivement déconstruits.
Et c'est aussi ce que souhaite Antoine Mahé avec son diplôme universitaire sur la diversité en médecine. Depuis 2020, ce programme d'un an est proposé à l'université et il est bien accueilli. Si bien que les étudiants en médecine de l'université devraient désormais aussi en profiter.
Tous les étudiants en médecine de 6e année à la faculté de médecine de Strasbourg vont avoir accès à cet enseignement pendant une quinzaine d'heures. Et ils entendront ce que je vous dis, les préjugés, la dermatologie, aussi il y a la pharmacogénétique. Il y a certains médicaments qui ne sont pas métabolisés de la même façon selon les populations. Mais en fait, il y a quand même une unité de l'être humain. Il ne s'exprime pas forcément de la même façon, mais en gros, il présente les mêmes pathologies. En gros, il demande la même chose. Évidemment, dans mon DU, on a tendance à peut-être exagérer les différences, mais il faut en parler pour justement savoir en quoi elles consistent et savoir quand les invoquer et savoir surtout quand ne pas les invoquer.
Le cours sera facultatif. Pourtant, Antoine Mahé y voit un pas en avant. On parle du sujet, on le retravaille, on échange. Comme dans tous les autres domaines de notre société, c'est la seule façon de prendre conscience des discriminations et des disparités.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Linéa Mundorf en novembre 2024. Coordination Thomas Rozek et Céline Aslo, réalisation Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.